vous suit.
Voici les titres du journal.
Le Conseil d'État valaisan a transmis au Grand Conseil un projet de loi sur la réorganisation du ministère public du canton du Valais. On vous en parle dans ce journal. Valérie Ditli a respecté la loi sur sa domiciliation fiscale, selon un expert indépendant. Mandaté par le Conseil d'État vaudois, il estime que la ministre n'a bel et bien pas fauté avec ses impôts. Rougemont financera à sa part du nouvel héliport du pôle santé Pays d'en Haut. Le législatif a validé à une large majorité les 120 000 francs de contribution. En hockey sur glace, le HCV Martigny n'est plus qu'à 2 victoires d'un titre qui viendrait couronner sa promotion en Swiss League. Et au Col des Mosses, ce week-end marquera la 10e et dernière édition de la Ski 24.
Et pour la météo, c'est une météo maussade qui nous est annoncée pour ce week-end. Une météo qu'on va développer à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Justin Gray. Bonjour Justin.
Bonjour. Renforcer l'organisation du ministère public du canton du Valais, tel est l'objet d'un projet de loi transmis par le Conseil d'État valaisan au Grand Conseil. Un projet de loi présenté tout à l'heure à Sion où vous étiez, Yves Terrani.
Oui, un projet de loi présenté par le ministre de contact de la Justice, c'est ainsi qu'on dit, Frédéric Favre, et qui comprend 3 axes essentiels. L'optimisation tout d'abord de la gouvernance du ministère public, la création ensuite d'un secrétariat général au même ministère public et la reconsidération enfin de la composition de ce dernier en vue d'y intégrer des greffiers.
Quel est, Yves, l'objectif de ce projet de loi ?
Eh bien, on le sait, le ministère public du canton du Valais a fait l'objet de passablement de critiques ces derniers mois, politiques ou dans les médias. Il a été chahuté, lenteur dans de gros dossiers avec des risques de prescription de certaines affaires complexes, problèmes de gouvernance et de ressources humaines. Le procureur général et son adjointe ont annoncé leur démission. Les modifications proposées dans le nouveau texte législatif répondent ainsi à plusieurs interventions parlementaires, aux recommandations du rapport en 2021 de la société Ecoplan sur l'organisation des autorités judiciaires valaisannes, mais aussi au souhait de la commission de justice du Parlement cantonal et à ceux du Conseil de la magistrature, cela en renforçant notamment le cadre organisationnel et structurel du ministère public, ainsi que la dotation de ce dernier en personnel supplémentaire.
Justement, Yves, il faudra créer des postes.
Oui, on parle de 15 équivalents plein temps en tout. Certains ont déjà été accordés par le Parlement cantonal. Le reste interviendra progressivement en fonction surtout du budget à disposition. Le politique prend ses responsabilités, a dit tout à l'heure Frédéric Favre devant les journalistes. Frédéric Favre qui espère pouvoir rétablir la confiance des citoyennes et citoyens valaisans en leur justice, car le conseiller d'État ne l'a pas caché. Le dégât d'image est conséquent.
Yves Terrani, merci beaucoup. Toujours en politique, la verte valaisanne Céline Décimo se porte candidate au Conseil des États. Élue au Grand Conseil depuis 2017 et chef du groupe de son parti, sa candidature a l'objectif d'offrir une alternative à la représentation monopartisane de la Chambre des Comptons.
Valérie Ditli n'a pas fauté avec ses impôts.
L'expert indépendant qui s'est penché sur la situation fiscale de la conseillère d'État vaudoise l'affirme. La ministre a bel et bien respecté la loi en conservant son domicile principal à Zoug jusqu'en 2022. Devant les représentants des médias, la conseillère d'État en charge des finances s'est réjouie des conclusions de l'expertise, Julie Gay.
C'est devant une salle remplie de représentants de la presse que le Conseil d'État vaudois a présenté hier à Lausanne les résultats de ce rapport très attendu. Mandaté par le gouvernement vaudois pour cette affaire, l'avocat fiscaliste Daniel Schaffer a dévoilé les conclusions de sa propre enquête. Et il est catégorique, Madame Ditli a agi dans les règles légales et jurisprudentielles. Pour rappel, depuis presque un mois, le statut fiscal de la nouvelle ministre des Finances fait polémique, notamment dans les partis de gauche du canton. La raison, les révélations de nos confrères de la RTS informant que Madame Ditli n'avait encore jamais été taxée dans le canton de Vaud. Aujourd'hui, si la légalité de sa situation fiscale a été confirmée par l'enquête, le déplacement à plusieurs reprises de son domicile entre le canton de Vaud et de Zoug lui a valu des reproches. Devant les journalistes, Valérie Ditli s'est défendue sur la question.
J'en ai en effet été partagée entre le canton de Zoug et le canton de Vaud. Une telle mobilité est normale lors des années d'étudiante et de premiers emplois et ne doit pas être assimilé à du tourisme fiscal. Et comme Maître Schwarz l'a mentionné aussi, il y a énormément d'étudiants et doctorants qui se trouvent dans la situation similaire, voire la même.
La situation fiscale de Valérie Ditli de 2016 à 2021 était donc légale, révèle l'expertise. Une expertise que la grande argentière a acceptée immédiatement par volonté de transparence. Et sur ce volet-là justement, la femme de 31 ans a souhaité également clarifier une autre polémique.
Maintenant, je souhaite faire preuve de la même transparence et de la même franchise concernant toutes les autres questions. Les interrogations qui ont été soulevées par rapport à ma thèse et au projet FNS.
Déposant sur la table ces deux ouvrages colossaux, la jeune politicienne a reconnu la maladresse d'avoir utilisé le titre de docteur sur deux réseaux sociaux avant d'avoir déposé sa thèse pour publication. Elle affirme qu'aujourd'hui, cette dernière est déposée et sera consultable dès le mois d'avril. Valérie Dietli déclare ainsi qu'elle pourra utiliser le titre de docteur en clôturant son discours. Un discours qui s'est achevé avec ces mots. « Ce dernier mois, j'ai appris que la vie peut être rude, mais j'ai aussi appris que j'ai un immense soutien derrière moi. »
Les explications de Julie Gay, merci. Chablais Agglo s'élargit, Saint-Maurice et Lavé-Morcle le rejoignent, les 6 communes fondatrices. Elles pourront désormais soumettre des projets d'infrastructures de mobilité au cofinancement de la Confédération. Par ailleurs, Chablais Agglo a décidé de se lancer dans un projet d'agglomération de 5e génération, lequel sera déposé à Berne pour le 30 juin 2025.
À Colombey, on souhaite en faire plus en matière de transition énergétique.
Déjà labellisée Cité de l'énergie, la commune désire franchir un pas de plus en obtenant la distinction Gold. Les autorités en place en ont fait l'un de leurs objectifs de l'année. Pour ce faire, il doit réaliser le 75% de ses projets énergétiques. Sandra Côté-Parvet, municipale Colombey-Roude, chargée du développement durable.
Simplement qu'on va mettre en place, continuer à mettre en place des mesures importantes. Donc c'est un petit peu se donner un challenge ou de se dépasser un peu, d'aller au-delà des mesures peut-être moins importantes, moins ambitieuses. On a décidé de se doter d'une politique énergétique ambitieuse au niveau aussi de notre plan directeur des énergies. Donc pour pouvoir mettre en place tout ça, avec ce label Gold, ça nous oblige à nous encadrer, en tout cas à avoir un plan d'action qui est ambitieux et de réaliser ces mesures.
Afin d'obtenir ce label Gold, la commune devra réaliser et réussir un audit en compagnie des responsables du label Cité de l'énergie. Audit qui devrait se tenir à la fin du mois de juin. Et Sandra Côté-Parvet l'assure, ce n'est pas pour se donner bonne conscience.
On pourrait peut-être penser ça, mais je ne crois pas, vu justement toutes les mesures qui ont été réalisées, le fait qu'on a à chaque réaudit, depuis le premier audit et la première fois où on a été label Cité de l'énergie, on a à chaque fois augmenté la concrétisation de nos actions. On a commencé avec à peu près 60% de mesures qui ont été accomplies du catalogue Cité de l'énergie et on arrive maintenant à plus de 75%. Donc ça vraiment, ça nous incite, ça nous oblige à quelque part à mettre en place ces mesures, à aller de l'avant. Si on n'avait pas ce cadre-là, on pourrait se dire on peut mettre en place des mesures sans le label Cité de l'énergie. Mais ça donne vraiment un cadre et un suivi avec ce plan d'action. Et on a vraiment un suivi aussi au niveau de l'entourage Cité de l'énergie, des conseillers et conseillères Cité de l'énergie. Donc ça vraiment, c'est un moteur qui nous permet de mettre en place ces mesures. C'est pas juste pour faire joli dans le paysage.
L'obtention du label serait en bonne voie, selon le conseil communal, grâce notamment au projet Valérénov, lancé il y a quelques semaines. Un sujet signé Thierry Nicolet. Pour la première fois de leur histoire, les deux collectivités de Saint-Gingolph adoptent une identité visuelle commune, laquelle a été réalisée par une graphiste du village, Mathilde Béni. La loutre et l'étoile ont été modernisées, l'émail de gueule a quant à lui été respecté, rouge pour la Suisse, bleu pour la France.
Rougemont soutient le projet de mise aux normes de l'héliport du pôle santé Pays d'en Haut.
Le législatif s'est prononcé mardi à une large majorité en faveur d'une demande de crédit de 120 000 francs, non conforme depuis plusieurs années. L'utilisation de cette place d'atterrissage était tolérée à coup de dérogation par l'Office fédéral de l'aviation publique, de l'aviation civile, pardon. Mais à la suite d'un renforcement de la réglementation, la Confédération a demandé au pôle santé des solutions pérennes, faute de quoi la plateforme serait fermée de manière définitive. Un scénario du pire inenvisageable pour Michel Geniard, municipal à Rougemont chargé de la santé.
Elle sert principalement au transfert de patients vers les hôpitaux tels que HRC ou le CHUV lorsque des urgences nécessitent un transfert. Si cette infrastructure ne pouvait pas être construite, moi je pense que cela serait vraiment un risque pour notre population parce que les patients devraient être transférés en ambulance vers un site de chargement. Ça rallongerait énormément le temps de prise en charge. C'est quand même quelque chose qui peut devenir compliqué, voire dangereux. Donc ce projet est très important dans ce sens-là.
Des propos recueillis par Guillaume Abbé, de viser à 1,6 million de francs, la structure pourra accueillir des engins pesant jusqu'à 5 tonnes. La date du début des travaux n'est pas encore connue. En sport, hockey sur glace, le HCV Martigny n'a pas tremblé hier soir devant son public. La formation valaisanne a remporté le deuxième acte de la finale des play-offs de My Hockey League contre Thun. Mené 1-0 dans cette série, les pensionnaires de la patinoire du Forum n'ont pas laissé passer l'occasion d'égaliser grâce à une excellente entame de partie marquée par 4 réussites inscrites en l'espace de 15 minutes. Les joueurs octoduriens se sont imposés 6-2. Très disciplinés, les Martignurins ont pu faire la différence grâce à un jeu simple basé sur des tirs de loin. points tout en mettant beaucoup de trafic devant le gardien adverse. Les précisions de l'entraîneur du FCV Martigny, Daniele Marghitola.
Tony nous a fait 4 buts comme ça le premier match. Et c'est... Alors c'est rare que dans un match, il y ait fait 4 buts comme ça qui rentrent. Mais en tout cas, un ou deux, c'est la base des buts de hockey si on regarde dans toutes les ligues. Hein. On peut regarder la Ligue 1, on peut regarder la NBA ou la NHL. Il y a au moins un ou deux buts par match qui sont faits de cette manière-là. Et c'est la base du jeu. Tout le reste, ça vient en soi, tout seul. Les opportunités, des fois, c'est sur les erreurs des adversaires, les jolis jeux. Il n'y a pas besoin d'aller les chercher. Les espaces, ils se créent quand on travaille comme il faut.
Dans cette finale des play-offs au meilleur des 5 matchs, le prochain acte est déjà prévu demain soir à Thun. Pour des formations composées de joueurs amateurs, la récupération est un élément clé qui peut faire la différence. Les explications de l'attaquant montaison du HCV Martigny, Mathis Maujonnier, auteur d'un but hier soir.
Bien sûr, il est primordial parce qu'on n'a pas tous des boulots où on peut forcément se libérer ou aller plus tard le matin. Donc le sommeil, la nourriture, on profite. Et c'est bien pour ça qu'on a aussi des entraînements plus courts durant ces playoffs.
Typiquement, vous gérez ça comment à titre personnel ?
Alors moi, je vais travailler avec mes heures que j'ai d'habitude. J'aime bien toujours aller sur la glace, même si on a des entraînements optionnels, parce que ça fait toujours du bien de bouger les jambes. Et un petit bain froid et après au lit.
Le troisième acte de la finale des playoffs de Mayo Kelly contre Martigny et Thun est donc prévu demain soir à 20h dans l'Oberland bernois. Un sujet signé Julien Traxel.
Au Moss, l'heure sera aux adieux ce week-end pour la Ski 24.
10 ans après avoir vu le jour, la course de ski de fond de 24 heures, disputée sous forme de relais par équipe, se tiendra une dernière fois entre demain et dimanche. Sans successeur, les membres du comité d'organisation ont choisi de tirer la prise. Mais pas question de ne pas terminer en beauté, même si les conditions ne seront pas idéales. En raison du manque de neige, une partie du parcours devra être effectuée à pied. Reste que les participants seront nombreux ce week-end au col des Moss. La limite maximale de 1000 participants sera atteinte, mais ce succès populaire ne suffit pas à pousser les organisateurs à repartir pour un tour. Les précisions de Léna Pichard, l'une des responsables de la Ski 24.
C'est assez contradictoire, mais en fait, au moment où on s'est lancé, moi j'avais toujours dit qu'on arrêterait quand on serait au sommet de la vague. Et puis ben voilà, on ne l'a pas choisi, on a choisi le moment où on voulait arrêter. La crise sanitaire a peut-être fait que ça s'arrête différemment que ce que ça aurait dû s'arrêter. Mais en fait, je crois qu'on arrête comme on a voulu arrêter. On arrive au bout d'un cycle, on le prend plutôt comme de la reconnaissance. Et puis finalement, des gens qui ont aimé ce qu'on a mis sur pied. Mais ça, à aucun moment, ça a peut-être fait réfléchir à une éventuelle continuité dans cette Ski 24.
Des propos recueillis par Ludovic Turin. Cette 10e et dernière édition de la Ski 24 est donc prévue ce week-end au Moss. Le départ sera donné demain à midi, alors que l'arrivée sera jugée au même endroit 24 heures plus tard.
L'actu en continu, radiochablais.ca.